Bonjour, vous écoutez un podcast de l'Académie saison 5, proposé par le Mouvement des entreprises de France et réalisé à partir d'une session de sensibilisation. Pour toute question liée à cet enregistrement, rendez-vous sur le site l'académiemedef.fr. Bon podcast à toutes et à tous.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est très heureux d'être avec vous aujourd'hui donc pour cette session qui est destinée à présenter ce document, ce guide des acteurs et outils de la transition écologique qu'on vient de faire paraître et qui répond à une question finalement assez simple qui est comment est-ce qu'on avance sur la transition écologique dans nos entreprises, par où est-ce qu'on commence, vers qui on se tourne. En fait, c'est une question qui est très simple en apparence mais qui est finalement posée par de nombreuses personnes. Quand on rencontre les 190 000 entreprises adhérentes au MEDEF, la centaine de fédérations et de territoires qui composent notre organisation, on voit que c'est une question finalement qui est extrêmement répandue. Parce qu'il y a un paradoxe, quand on fait le sondage des adhérents du MEDEF et qu'on leur demande sur quoi est-ce que vous avez besoin que notre organisation vous accompagne, eh bien en premier, ce qui ressort, et de très loin d'ailleurs, c'est la transition écologique. Devant les sujets fiscaux, devant les sujets sociaux, qui sont des missions historiques de notre organisation. Et je le précise pour celles et ceux d'entre vous qui ne sont pas adhérents du MEDEF. Et donc cela témoigne de deux choses. D'une part, le fait que les entreprises ont pris conscience de la nécessité de faire le virage de la transition. Donc il n'y a pas de question de volonté de ne pas y aller. Tout le monde est conscient des enjeux et a envie de réduire l'impact environnemental de son organisation tout en restant effectivement profitable et en croissance dans la mesure du possible. La question qui se pose, c'est tout simplement par où est-ce que je commence. Et donc c'est une volonté très forte de la part du MEDEF, de Patrick Martin bien sûr, son président, de démontrer qu'il y a un chemin de croissance qui permette de réduire l'impact environnemental des organisations. Et donc c'est pour cela qu'on s'est mis à la tâche et qu'on a publié donc ce guide des acteurs et des outils de la transition écologique qui est destiné à accompagner donc toutes les entreprises de France dans ce chemin de la transition. Donc c'est un document qui se veut très facile d'accès pour justement accompagner les entreprises, les MEDEF territoriaux, les MEDEF régionaux, et qui se veut un premier pas, bien évidemment, pour identifier les acteurs et les outils au service de ces entreprises. Donc, bien évidemment, l'information qui est dans ce guide est peut-être connue de la plupart des experts qui vont nous écouter aujourd'hui, mais on a été assez surpris, finalement, de se rendre compte, quand on a élaboré ce document, finalement, il y avait peu d'outils similaires qui existaient sur le marché, en tout cas en accès libre comme ceux du MEDEF, et que du coup, ça pouvait justement permettre d'accompagner des acteurs qui ne sont pas forcément des experts de la transition écologique, mais qui sont de bonne volonté et qui ont envie de savoir par où commencer. Donc c'est un sujet qu'on a porté au sein de notre commission de transition écologique et économique, donc la commission TEE pour les personnes averties. Et effectivement, donc cette commission-là, elle existe depuis maintenant plusieurs années au MEDEF. Elle est coprésidée depuis 2023 par Christine Goubet-Millot, la présidente de l'UFE, et Benoît Clocheret, le président exécutif d'Artelia, pour la fédération Syntec. Et donc avec la volonté très claire, justement, de rendre la transition écologique très, très tangible, très opérationnelle, et de faire en sorte que, effectivement, au-delà du cadre réglementaire, au-delà des outils qui existent, que ce cadre et ces outils soient connus, mis en œuvre et que du coup, on obtienne des résultats plus rapides, plus efficaces pour justement atteindre les objectifs qui ont été fixés par l'État ou l'Europe et auxquels les entreprises, je le répète, souscrivent évidemment. Donc ce guide, le voici. Vous avez normalement eu dans l'invitation de ce webinaire le lien pour y accéder en format PDF. Et donc Hugo Jublon à ma droite, qui a été la cheville ouvrière de ce projet, va maintenant pouvoir rentrer dans ce document.
Merci Jean-Baptiste. Bonjour à toutes et à tous. Comme le disait Jean-Baptiste, c'est vraiment l'idée, c'était de construire un guide très opérationnel et pédagogique pour les MEDEF régionaux et territoriaux et in fine pour les chefs d'entreprise de TPE-PME. Donc on a fait le choix de le structurer en quatre parties, quatre grands items, donc les enjeux, les acteurs, les financements. Et la quatrième partie, elle est destinée aux dispositifs clés et cas d'études inspirants. Donc on a mis en lumière certains financements particulièrement sollicités par les entreprises et particulièrement intéressants, et aussi des cas d'études territoriaux, les bonnes pratiques au niveau local. Concernant la première partie, les enjeux de la transition écologique, elle se divise en deux sous-parties. On rappelle dans un premier temps les données et enjeux scientifiques clés et dans un second temps le cadre juridique et les politiques publiques mises en œuvre en la matière. Sur les données et enjeux scientifiques clés, il nous a paru important de commencer par expliquer un peu le cadre scientifique de la transition écologique avant d'aborder les acteurs et les financements. Et on a voulu vraiment centrer et commencer ce travail par la transition écologique, elle affecte les entreprises. Il y a une véritable approche risque vs opportunité et on a voulu commencer et débuter ce guide par cet angle. Sur les risques, c'est des facteurs externes qui peuvent mettre en difficulté l'activité d'une entreprise. Donc il y a bien sûr les risques physiques que vous connaissez, qui sont liés au changement climatique et à l'érosion de la biodiversité. Le plus souvent, ces risques sont perceptibles à l'image des inondations, des sécheresses, des vagues de chaleur. Mais il y a aussi les risques de transition qui, eux, sont divisés en quatre catégories. Donc on a les risques réputationnels. C'est par exemple le boycott d'un produit. Les consommateurs préfèrent choisir un produit plus écologique et plus responsable. Il y a les risques juridiques aussi. On s'attache et on voit le développement du cadre juridique de la transition écologique. Et il y a plus en plus d'actions en justice concernant, par exemple, les enjeux de santé liés à la pollution. On a les risques de marché. C'est pareil, le comportement des consommateurs. On voit que les consommateurs tendent à privilégier, par exemple dans le secteur de la distribution, des alternatives de seconde main au neuf. Et enfin, on trouve les risques financiers. Les investisseurs aussi investissent de plus en plus dans des modèles plus durables, à la fois les investisseurs privés, mais aussi les pouvoirs publics. Par exemple, dans les villes de Grenoble et de Lyon, le maire a interdit les panneaux publicitaires. Donc voilà. Il s'avère vraiment nécessaire que vos réflexions et actions s'inscrivent dans ce nouvel environnement pour justement assurer la pérennité de votre business model. Outre l'approche risque, on a fait le choix d'aborder des enjeux beaucoup plus scientifiques en rappelant, sans rentrer trop dans le détail, mais en rappelant les principales données du cadre scientifique, avec bien sûr les chiffres du GIEC que vous connaissez, le réchauffement de la planète plus 1,5 degré en 2030, les 3,5 milliards de personnes qui vivent dans des contextes très vulnérables au changement climatique, ou encore le changement climatique est la troisième cause de perte de biodiversité à l'échelle mondiale. Et on a fait un focus vraiment climat, mais aussi on a voulu mettre en avant la biodiversité avec les chiffres de l'IPBES, où on rappelle les 5 facteurs directs de pression anthropique, à savoir le changement d'utilisation des terres et des mers, l'exploitation directe du vivant, le changement climatique, les pollutions, les disséminations des espèces exotiques envahissantes. Et on rappelle une donnée qui interpelle, 75% de la surface terrestre et 66% des océans sont altérés par l'activité humaine. Donc après avoir fait ces focus sur climat et biodiv, on relie ces données aux 9 limites planétaires que vous connaissez et à la théorie du donut. Donc, pour rappel, les limites planétaires, c'est des limites. Si celles-ci sont franchies, elles menacent nos conditions d'existence telles que nous les connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a 7 limites planétaires qui sont franchies. La dernière, c'était l'acidification des océans. Et la théorie du donut, c'est un modèle qui modélise la sphère économique avec un plancher social, donc un plancher qui est acceptable en termes d'acceptabilité sociale pour les populations, pour assurer un développement, et un plafond, le plafond écologique. Et le donut se situe entre les deux. Ce modèle permet d'observer quel est le modèle économique optimal. Après ce focus sur ce cadre scientifique et sur les enjeux pour les entreprises en termes de risque, on a essayé de recenser les principales textes, à la fois à l'échelon international, à l'échelon européen, à l'échelon national et à l'échelon territorial. Bien sûr, ce recensement n'est pas exhaustif, mais on a essayé vraiment, pour un chef d'entreprise, qu'il ait les principales données en tête et les principaux objectifs à chacun des échelons. Sur les objectifs internationaux de référence, on mentionne bien sûr les ODD. Donc, il y a 17 objectifs mondiaux qui sont établis par l'Organisation des Nations Unies. Et ces 17 objectifs visent à assurer un avenir durable, la paix et la prospérité à un horizon 2050. Par exemple, un des ODD est assurer une énergie propre et à un coût abordable. Et ces ODD, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont déclinés à l'échelle locale. Les régions doivent composer et doivent atteindre ces objectifs. On a bien sûr mentionné l'accord de Paris, qui vise à limiter la hausse des températures à 1,5 degré à horizon 2100, et l'accord de Koenig-Montréal, qui lui est un accord en matière de, dans le domaine pardon, de la biodiversité. Cet accord il définit 4 objectifs et 23 cibles internationales de préservation et restauration de la nature pour 2030 et 2050. Là aussi, on est à des horizons moyens-long terme. La cible 15 concerne très directement les entreprises. Elle dicte que les entreprises doivent pouvoir être en capacité de mesurer et assurer la transparence en termes d'impact dans le domaine de la biodiversité. À l'échelon européen, on mentionne bien sûr le pacte vert européen de 2020, le paquet Fit for 55, qui vise à réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre en 2030. Et d'atteindre bien sûr la neutralité carbone en 2050. Donc là, vous pouvez constater que l'horizon, à la fois à l'échelle internationale et européenne, est le même. Et pour ce faire, ce pacte européen prévoit une série de mesures importantes. Vous les retrouverez toutes dans le guide, mais on en a mentionné quelques-unes ici. Fin des voitures neuves, diesel et essence en 2035, le MACF, tout ce qui concerne le domaine douanier, la lutte contre les passoires thermiques ou encore la création massive de puits de carbone naturel. On a bien sûr mentionné la CSRD. Cette directive elle vise, elle, à encadrer et standardiser le reporting extra-financier européen pour une plus grande transparence et comparabilité entre les entreprises. Donc là, on explique, pareil dans le guide, les objectifs de la CSRD et quelles sont les normes de reporting qui s'appliqueront aux entreprises. Et on fait un focus sur les différents types de matérialité qui peuvent exister. Au niveau national, on mentionne les principales lois, donc la loi AGEC de 2020, qui, elle, joue sur nos modes de consommation et de production. Elle vise à passer d'une économie linéaire à une économie circulaire. Donc dans cette loi, on trouve typiquement tout ce qui est emballage plastique, lutte contre le gaspillage alimentaire ou encore l'élargissement du principe REP, tout ce qui concerne la responsabilité élargie du producteur. On mentionne également la loi climat et résilience qui, elle, vise à renforcer l'action de la France contre le changement climatique. Et cette loi, elle est systémique, elle englobe de nombreuses thématiques, par exemple le logement avec l'objectif ZAN, zéro artificialisation nette en 2050, ou encore dans le domaine des transports avec les zones à faible émission, les ZFE. Ça, c'est les deux lois qu'on a décidé de mettre en avant dans le guide. Et on mentionne aussi les politiques publiques nationales dans le domaine de l'énergie et du climat, avec la SFEC, qui, elle, a deux composantes, stratégie nationale bas carbone, qui est la feuille de route pour atteindre la neutralité carbone en 2050, et la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui, elle, vise la trajectoire énergétique française pour 2030. On mentionne bien sûr le plan France Relance, qui, lui, est un plan plus récent de l'État, qui est un programme d'investissement qui vise à relancer l'économie après la crise de la Covid, et également le plan France 2030, qui, lui, joue sur l'innovation, la réindustrialisation et le financement de la transition écologique. Et enfin, au niveau territorial, on a fait le choix de s'attarder sur 3 focus, 3 items qui concernent principalement les acteurs économiques au niveau local, les arrêtés préfectoraux. Donc on explique ce qu'est un arrêté préfectoral, donc un acte administratif pris par le préfet. Et on en trouve beaucoup dans le domaine des installations classées pour la protection de l'environnement. Donc on explique ces modalités. On met en avant également les zones à faible émission qui, elles, visent à améliorer la qualité de l'air dans un objectif de santé publique en restreignant la circulation à certains types de véhicules. Donc aujourd'hui, 10 agglomérations sont concernées et à chaque fois, on rappelle la position du MEDEF sur les sujets. Et enfin, l'écologie industrielle territoriale qui se développe de plus en plus, qui se caractérise par la mise en commun de ressources par les acteurs économiques d'un territoire afin d'en améliorer la productivité. Ça concerne par exemple les flux. Et on donne des tips pour rentrer dans une démarche de IT à l'échelle locale, il y a un réseau, le réseau Synapse, qui recense toutes les initiatives, par exemple, de IT à l'échelle locale. Donc vous pouvez très facilement, dans une logique d'écologie industrielle territoriale. Voilà pour la première partie sur un peu les enjeux où on pose le cadre et on rentre dans le dur à partir de la deuxième partie avec les acteurs de la transition écologique. L'ambition de cette partie, c'était de recenser à la fois les acteurs les plus importants dans le domaine de la transition écologique, mais aussi rappeler l'importance de s'investir en tant que chef d'entreprise d'une TPE-PME dans des instances locales qui sont faites pour vous, à côté des pouvoirs publics, pour partager votre point de vue, vos problématiques en tant qu'acteur économique. S'agissant des acteurs nationaux moteurs, tout est expliqué dans le guide. Donc France Nation Verte, c'est le logo du secrétariat général à la planification écologique. C'est une instance qui est rattachée à Matignon auprès du Premier ministre qui est chargé de la planification écologique en France. On a bien sûr le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique depuis quelques temps, notamment sur les problématiques de l'énergie. Donc ces trois acteurs, SGPE, ministère de la Transition écologique et Bercy, sont plus chargés de l'élaboration des politiques publiques, donc différents textes qui concernent la transition écologique. On a aussi des acteurs dans le domaine qui apportent de l'ingénierie et de l'expertise. Je pense particulièrement au CEREMA ou à l'ADEME, qui, elles, interviennent notamment auprès des collectivités locales pour leur apporter une ingénierie sur différents sujets en la matière. Et bien sûr, on a les acteurs qui financent les projets, que BPI France et la Banque des Territoires. L'OFB, j'ai oublié l'OFB, l'OFB intervient aussi dans le domaine de la biodiversité en tant qu'expertise et ingénierie auprès des parties prenantes. Donc ça, c'est les acteurs publics. À côté, le MEDEF national, en miroir, a une commission, la commission de transition écologique et économique, qui, elle, comprend différents comités thématiques. Donc le comité environnement, le comité biodiversité, le comité territoire, le groupe de travail adaptation, la task force, planification écologique. Ces différentes instances, ces différents comités produisent des notes, guides ou encore vademécum à destination de nos adhérents. Après avoir vu les acteurs nationaux, on fait un focus sur le rôle des collectivités territoriales en matière de transition écologique, les différents niveaux où on rappelle que la région est chef de file en matière de protection de la biodiversité, du climat, de la qualité de l'air, de l'énergie et du développement durable, qu'elle dispose aussi d'une compétence en matière de politique trame verte et bleue, qu'elle a des outils de protection avec les réserves naturelles régionales et les parcs naturels régionaux, et qu'elle a des outils, des schémas planificateurs, le plus connu d'entre eux est le SRADET, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. C'est ce schéma qui fixe la stratégie transition écologique à l'échelle régionale. Les départements ont plus une compétence dans le domaine social, mais peuvent intervenir subsidiairement en matière de transition écologique, notamment en termes d'infrastructures durables. C'est par exemple un département qui décide de faire des pistes cyclables sur son territoire et en matière de ressources naturelles, par exemple les forêts départementales. Les EPCI possèdent eux aussi une compétence à l'échelle infrarégionale en matière d'aide économique, mais aussi en ce qui concerne les déchets, GEMAPI sur la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations. Ils sont chargés aussi de la mise en œuvre d'un certain nombre de schémas, donc les plans climat, air, énergie territoriaux, le schéma de cohérence territoriale, le SCOT, dans le domaine de l'urbanisme, et les contrats de relance et de transition écologique qui sont particulièrement importants parce que ces contrats vont s'inscrire très prochainement dans le cadre de la planification écologique. Ces contrats seront les outils pour déployer à l'échelle de l'intercommunalité la planification écologique d'un territoire. Et enfin, les communes avec leur clause générale de compétences, où voilà, elles peuvent être amenées à intervenir en matière de transition écologique. Elles peuvent par exemple très concrètement créer des jardins partagés, elles peuvent aussi intervenir dans la gestion des déchets, etc. Et il faut savoir que les communes jouent quand même un rôle démocratique essentiel dans la mise opérationnelle des nouveaux projets. Par exemple, ces communes, c'est elles qui ont la compétence pour assurer la concertation et le débat public dans le déploiement des énergies renouvelables. Quand on décide de créer une zone d'accélération des énergies renouvelables, bah, c'est le maire qui va organiser le débat public pour assurer le déploiement du projet. Et pareil qu'au niveau national, en miroir, le MEDEF est présent dans chaque région et à l'échelle départementale et territoriale, 119 organisations territoriales, on est également présent en Outre-mer. Et dans les territoires, des référents de transition écologique justement accompagnent les entreprises adhérentes par des diagnostics, des conseils, mises en relation et permet aussi aux TPE, PME d'accéder au financement. Donc on a vu les acteurs nationaux, les collectivités territoriales. Là, on a décidé aussi de recenser les acteurs territoriaux. Donc les acteurs territoriaux publics qui sont essentiels pour les TPE, PME. Ces acteurs territoriaux, ils interviennent dans différents domaines. Donc, dans le domaine de l'eau, on a bien sûr les agences de l'eau. Elles sont au nombre de 6 sur le territoire hexagonal. On a aussi des comités de l'eau et de la biodiversité en Outre-mer. Et ces agences de l'eau, elles ont vocation à financer des études et travaux qui permettent de garantir une eau de qualité et en quantité suffisante. C'est l'instance qui intervient à l'échelle des bassins versants. On a la FENARIV aussi, qui est la Fédération nationale des associations de riverains et d'utilisateurs industriels de l'eau, qui est l'interlocuteur important des pouvoirs publics en matière d'utilisation industrielle de l'eau. Faut savoir que la FENARIV porte la voix des 70 000 entreprises, notamment dans les comités de bassin. En matière de biodiversité, on a les ARB, Agence régionale de biodiversité. Et les ARB, elles visent à assurer la coordination des politiques nationales, régionales et locales de biodiversité. Donc voilà, elles interviennent dans cette matière. On a l'ADEME en région, le siège national qui est à Angers, mais l'ADEME est présent dans toutes les régions, donc elle comprend 17 directions régionales. Elle est également présente en Outre-mer et l'ADEME accompagne techniquement et financièrement les projets de transition écologique menés par les collectivités et les entreprises. L'ADEME, ce n'est pas que collectivités, c'est aussi les entreprises. N'hésitez pas à solliciter votre ADEME régional pour avoir des demandes en matière de financement de projets. On a les CCI qui, elles, au niveau régional, sont consultées dans l'élaboration du SRADET, notamment, donc du schéma planificateur au niveau régional, pour les dispositifs d'assistance aux entreprises qu'ils envisagent de créer, et elles peuvent être amenées à assurer la maîtrise d'ouvrage de tout projet d'infrastructure ou d'équipement. Donc les CCI interviennent également en matière de transition écologique, et les CMA, côté artisanat, peuvent accompagner les artisans tout au long de la création de leur entreprise, notamment en matière de transition écologique, et ça, c'est depuis la loi Climat et Résilience. Au niveau territorial, on a aussi les services déconcentrés de l'État, donc les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Ces entités assurent la mise en œuvre et la coordination des politiques publiques dans le domaine de l'environnement et de l'aménagement du territoire. Donc c'est un service qui est rattaché à la préfecture. Et les DRAF, au niveau de l'agriculture et de la forêt, elles définissent et mettent en œuvre les politiques nationales et communautaires de développement rural et de l'aménagement et développement durable du territoire. Donc là encore, c'est un opérateur déconcentré de l'État. Dans le domaine de la formation, maintenant, on a les OPCO. Les opérateurs de compétences, ils ont pour mission d'accompagner les différentes branches professionnelles et les entreprises dans l'observation et l'anticipation de leurs besoins en compétences en matière de transition écologique. Voilà. S'il y avait une slide à retenir, ça serait celle-ci. On montre aussi dans ce guide qu'il est primordial pour chefs d'entreprise, les acteurs économiques, de s'impliquer dans les instances de gouvernance locale. Auprès des pouvoirs publics, ces instances sont composées le plus souvent de différents collèges, et il y a souvent un collège usager économique. Et vous avez votre voix à porter, votre voix à défendre, pour que les élus régionaux, les opérateurs publics régionaux et territoriaux, au sens large, puissent entendre votre voix et vos problématiques. En ce moment, les COP régionales se déploient sur l'ensemble du territoire. Et ces COP interviennent dans le cadre de la planification écologique, France Nation Verte. Et l'enjeu, c'est de définir différents leviers d'action sur un volet climat, un volet biodiversité et un volet adaptation au niveau régional. Donc le MEDEF est présent, les MEDEF régionaux et territoriaux sont présents dans ces COP. Et dans les différents groupes de travail. On a également les conférences régionales du ZAN, qui, elles, sont chargées de se réunir sur tout sujet qui concerne la mise en œuvre des objectifs de réduction et d'artification des sols. Ces conférences, elles sont le plus souvent composées des différents élus locaux, des différentes strates, donc régionales, communales, intercommunales. Mais n'hésitez pas à solliciter votre conseil régional pour manifester votre intérêt à être associé aux travaux et à minima être informé aussi des travaux, parce que cette réforme aura des implications très concrètes en termes de développement économique et impactera nécessairement les différentes entreprises du territoire. Dans le domaine de l'énergie, on a les AREC et les comités régionaux de l'énergie. Donc les AREC, le pilote, c'est le conseil régional, et comité régional de l'énergie, il y a une petite différence, c'est le conseil régional et la préfecture de région. Dans les AREC, c'est de faciliter la transition énergétique et l'adaptation au changement climatique à l'échelle régionale. Donc là encore, n'hésitez pas à solliciter le conseil régional pour vous impliquer dans la gouvernance. Vous pouvez devenir membre du collège acteurs économiques. C'est l'exemple du MEDEF Centre-Val-de-Loire, où Nicolas Dumas, le président du MEDEF Centre-Val-de-Loire, est vice-président de l'AREC Centre-Val-de-Loire et membre du collège acteurs économiques. On a les comités régionaux de l'énergie, où il y a deux pilotes, conseil régional et préfecture de région. Donc, son rôle est similaire à celui d'une AREC, c'est rendre des avis sur tous les sujets régionaux de l'énergie, notamment en matière d'énergie renouvelable. Donc là encore, il y a un collège représentant les entreprises de l'énergie. Donc n'hésitez pas à solliciter à la fois la région et la préfecture. Dans le domaine de l'eau, maintenant, on a trois instances, comité de bassin, commission locale de l'eau et comité ressources en eau. Comité de bassin, ils sont chargés de l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de la gestion des eaux, connu aussi sous le nom de SDAGE. Comité de bassin, il fixe à l'échelle d'un bassin la stratégie de l'eau et des milieux aquatiques. C'est un peu le parlement de l'eau à l'échelle locale. Il dépend de l'agence de l'eau. Donc n'hésitez pas encore à solliciter votre comité de bassin. Il y a un collège représentant les usagers économiques de l'eau, avec un sous-collège qui représente les industriels. Ça permet de travailler avec d'autres acteurs locaux de l'eau, aux intérêts parfois divergents. Donc, les comités de bassin sont composés notamment d'élus et d'associations. Au niveau départemental, il y a les commissions locales de l'eau qui, elles, sont chargées du SAGE, donc le schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Là encore, il y a un collège représentant les usagers, où les acteurs économiques sont les bienvenus. Et on a aussi, à la maille infradépartementale, les comités ressources en eau. Donc, eux sont consultés dans l'élaboration des arrêtés cadres interdépartementaux ou départementaux en matière de sécheresse. C'est particulièrement important de se rapprocher de ces comités. Ces comités, ils sont mis en place par le préfet qui décide de la composition. Et ils sont très utiles pour disposer d'une information sur l'état de la ressource en eau au niveau territorial, et faire valoir vos contraintes, les contraintes des acteurs économiques, notamment en période de sécheresse. Et enfin, plus connu, les CESR régionaux, qui donnent des avis et des orientations auprès du conseil régional. Donc c'est un cadre plus macro qui intervient sur tous les sujets. Et là, des représentants MEDEF siègent au sein des différents CESR. Troisième partie, les financements. On a décidé dans cette partie, premièrement, de présenter les différents financements, mais à une échelle très théorique. Vous pouvez voir quel est l'avantage et l'inconvénient de tel ou tel financement. Par exemple, un prêt, l'avantage, accès rapide au fonds, possibilité de négocier les termes. L'inconvénient, le coût et l'engagement financier à long terme. À l'inverse du crédit d'impôt qui, lui, a comme avantage la réduction de l'impôt à payer et incitatif fiscal, mais comme inconvénient, le retard dans la récupération des fonds et parfois une certaine complexité administrative. Donc voilà, on a listé les différents financements avec à chaque fois les avantages et les inconvénients. Vous pouvez identifier rapidement quel financement vous convient, en mettant aussi en avant des formes de financement un peu plus nouvelles, à l'instar du financement participatif qui, lui, permet d'avoir accès à un large réseau de contributeurs, une visibilité accrue et être un peu plus flexible dans la collecte des fonds, sauf qu'en inconvénient, voilà, il y a des garanties de financement qui ne sont pas forcément assurées, et il y a aussi des coûts liés à la plateforme de financement participatif. Donc le guide recense ces différents financements, dresse la typologie et les avantages et les inconvénients à chaque fois. On a mentionné et développé sur les plateformes d'aide nationale, ça c'est particulièrement important pour vous, acteurs économiques. On a listé les plateformes gouvernementales qui recensent les différents dispositifs financiers. La dernière en date, c'est la plateforme gouvernementale Transition écologique des entreprises mise par le ministère. Cette plateforme recense l'ensemble des aides dans le domaine de la transition écologique. Et c'est assez intuitif d'utilisation. Vous renseignez votre profil avec votre numéro de ciré. Vous répondez à quelques questions sur vos priorités en matière de transition écologique, vos salariés, etc. Et la plateforme mouline et vous sort les aides les plus adéquates, surtout les aides auxquelles vos entreprises peuvent bénéficier. Voilà, comme ça, vous n'avez pas à regarder à chaque fois les conditions et les modalités, ce qui peut être parfois un peu kafkaïen. On mentionne également la plateforme de l'ADEME, Agir pour la transition écologique, qui est, elle aussi permet d'identifier rapidement des subventions, que ce soit la recherche, l'innovation, soit diagnostic, études, avec un focus sur optimiser votre TPE-PME. C'est une rubrique de l'ADEME, vous aurez toutes les informations dans le guide, où là encore, vous pouvez jouer sur différents secteurs de votre activité économique, par exemple le transport, vous souhaitez agir dans le transport, et ben, vous cliquez sur la case, vous renseignez des informations et la plateforme vous sort les aides auxquelles vous avez le droit. Ce qui est plutôt c'est rapide et très intuitif. Et enfin, on a mentionné la plateforme gouvernementale Aides et Territoires. Donc là, cette plateforme, à la différence des deux autres, elle recense les aides territoriales, donc les aides mises en place par votre région, par votre PCI, qui varie bien sûr d'une région à l'autre. Donc là, vous avez vraiment un aperçu assez fin sur ce que peut vous proposer votre interco, votre communauté de communes, etc. en matière d'aide. Et souvent, ces aides sont peu sollicitées, donc n'hésitez pas à aller regarder cette plateforme. Et enfin, la partie 4, focus sur les dispositifs clés et cas d'études inspirants. Donc cette dernière partie, on a mis en avant ce qu'il ne fallait pas manquer et des cas d'études qui peuvent vous inspirer. Sur les dispositifs nationaux à ne pas manquer, on a mis les aides qui nous ont semblé les plus sollicitées parce que les plus efficaces. Vous les retrouverez dans le guide. Il y a bien sûr l'aide tremplin de l'ADEME qui est beaucoup usitée. Elle est destinée aux TPE-PME et c'est une subvention dans tous les domaines de la transition écologique. Ça concerne les énergies, les déchets, etc. Vous pouvez prétendre à cette aide. Le montant varie entre 5 000 et 200 000 euros, selon bah, bien sûr la taille de votre entreprise et le type d'action que vous menez. On a par exemple dans un autre domaine l'appel à projet, acte pas à pas, où là c'est pour définir une stratégie de transition bas carbone. Les MEDEF peuvent vous accompagner en fait dans cette démarche acte pas à pas. C'est l'exemple du MEDEF Normandie qui a embarqué une vingtaine d'entreprises dans cet appel à projet. Et qui permet de définir chacune de ces entreprises une véritable stratégie de décarbonation et un plan d'action. Il y a la plateforme, toujours dans le domaine de la décarbonation, Je Décarbone, qui est une plateforme de mise en relation entre des industriels qui offrent des solutions de décarbonation et d'économie d'énergie et des entreprises qui ont un besoin. Par exemple, le MEDEF Centre-Val de Loire organise le 10 avril prochain une rencontre Je Décarbone en Centre-Val de Loire. Et ce dispositif a vocation à être décliné dans toutes les régions au cours de l'année 2024. Et n'hésitez pas à solliciter votre MEDEF pour avoir plus d'informations en la matière. Enfin, on a des prêts à l'image du prêt vert ou du prêt action climat. Ce sont des prêts sans garantie financière qui vous permettent aussi de mettre en place un plan d'action, notamment dans le domaine énergétique. Et enfin, on a les diagnostics. Donc là, ce n'est pas des prêts ni des subventions ni des appels à projets. C'est un diagnostic qui est réalisé par des experts. Vous souhaitez réduire vos flux d'énergie, d'eau, de matière, de déchets, bah, vous pouvez avoir un diagnostic pour voilà, étudier votre modèle économique et repartir avec un plan d'action et une mise en œuvre opérationnelle. Donc, par exemple, pour le diag Ecoflu, ces trois diagnostics sont portés par BPI France. Pour le diag Ecoflu, c'est un coût de 2000 euros pour les entreprises avec moins de 49 salariés et 3000 euros à partir de 50 salariés. Dans le domaine de la décarbonation, on a Décarbon Action. Donc là, c'est pareil, c'est réaliser un bilan carbone et mettre en place un plan d'action par étape. Et dans le domaine de l'éco-conception, on a le diag Éco-conception qui, lui, est ouvert aux PME de moins de 250 salariés réalisant moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et là, pareil, le coût du diagnostic varie entre 5 400 et 7 200 euros selon votre chiffre d'affaires. Donc tous ces dispositifs nationaux sont développés, guides. La version numérique, vous avez à chaque fois les liens hypertextes qui renvoient à ces différents dispositifs. Donc n'hésitez pas à creuser. Et enfin, les cas d'études territoriaux pionniers. Donc là, on a mis que deux exemples dans cette présentation, mais on développe par territoire. Par exemple, on fait un focus sur les territoires littoraux. Si vous êtes dans un territoire de montagne, on fait également un focus sur les territoires de montagne pour vous apporter des informations concernant les informations de ces territoires spécifiques. Là, on a mis par exemple deux exemples de bonnes pratiques, le MEDEF Centre-Val de Loire et son partenariat avec la région et l'ADEME régionale. Voilà, par exemple, depuis 2022, MEDEF Centre-Val de Loire a mis un nouveau dispositif, Transition écologique et RSE, qui permet aux entreprises adhérentes du MEDEF de suivre ces deux parcours. Une prise en charge de la région est possible jusqu'à 50% et il y a des résultats très concrets. Et 44 entreprises ont été accompagnées. Et en Bretagne, le MEDEF Bretagne a, lui, un parcours exclusivement RSE qui a été mis en partenariat avec EDF et la Banque Populaire. C'est porté par le MEDEF Bretagne et les MEDEF départementaux qui, eux, accompagnent les entreprises vers la RSE. Donc, il y a trois parcours selon la maturité de l'entreprise, Start RSE, RSE Progression et RSE Exemplaire. Et là encore, c'est des ateliers déclinants sur une cadence d'un mois et qui prennent la forme d'un accompagnement collectif et individuel. Donc vous découvrirez dans ce guide d'autres cas et d'autres exemples de bonnes pratiques. Merci beaucoup.
Je vous invite vraiment à garder le lien et à bookmarker le lien vers ce document parce qu'il va être mis à jour, bien sûr, régulièrement. Dès qu'on le met sous presse, ça devient obsolète à la minute où on le fait. Évidemment, il y a une grande activité des acteurs de la société française sur la question de la transition. Donc voilà, c'est un perpétuel mouvement. En tout cas, on espère que ce document permet quand même de canaliser les questions, de canaliser les interrogations. Donc, faire quelque chose de très opérationnel. C'est vraiment notre objectif ici, de faire en sorte que les entreprises françaises puissent mettre le pied à l'étrier pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, ou puissent aller plus loin pour ceux qui ont commencé, et surtout essayer de lutter contre un peu ce sentiment d'injonction contradictoire qu'on peut ressentir par rapport à l'urgence de la transition et finalement à la difficulté de savoir par où commencer, et justement essayer de mettre les entreprises dans un chemin qui est positif, qui est celui de notre ADN entrepreneurial, qui est celui de faire, de trouver des solutions, d'innover et de créer de la valeur.
C'était un podcast de l'Académie saison 5. Nous tenons à remercier l'ensemble des intervenants et collaborateurs qui ont contribué à sa réalisation. Merci de votre fidélité et à bientôt.